Évidemment, on va passer à la 5G. La France, c'est le pays des lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish.
C'est ainsi qu'Emmanuel Macron résumait il y a quelques mois le débat pourtant complexe autour de la 5G. Les Amish, sous-entendu les rétrogrades, ceux qui doutent de l'utilité de cette technologie. Et les autres, les modernes, ceux pour qui la nouvelle génération mobile est une opportunité. Autrement dit, un outil incontournable pour le secteur économique et en premier lieu pour le marché déjà juteux des objets connectés.
Désolé, je rencontre des problèmes. Veuillez réessayer dans un instant.
La 5G est en réalité une version augmentée, améliorée de l'actuelle 4G. Le débit est plus important, 3 à 4 fois supérieur, mais ce n'est que le début. La 5G a vocation à être encore plus rapide et passer par des fréquences encore plus grandes. Alors même que les ondes électromagnétiques ne sont pas sans poser des questions pour notre santé et notre environnement.
Il faudrait commencer par penser à l'homme et à la santé humaine, et même à l'environnement, à la santé des autres êtres vivants, avant de développer cette technologie.
En France, les opérateurs ont déboursé 3 milliards d'euros pour s'accaparer de nouvelles fréquences. Nice a été la première ville à rendre la 5G opérationnelle. D'autres, plus récalcitrantes au début, comme Bordeaux, Strasbourg, n'ont d'autre choix que de s'y mettre désormais. Le réseau 5G a été activé avant même la publication d'un rapport sur son éventuelle dangerosité.
Même si on va transporter plus de trafic, la 5G, c'est une technologie plus efficace qui va envoyer les données uniquement là où on en a besoin.
Nous commençons ce reportage dans l'un des lieux les plus high-tech et sécurisés du pays, le laboratoire souterrain de Bure, dirigé par l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. L'entrée est gardée par des hommes des services secrets intérieurs. Anaël Verzo est accompagnée sous bonne garde, car ici aussi, le très haut débit mobile est attendu comme le Messie. 5G, les ondes de la controverse, voici son reportage.
Interception, le magazine de la rédaction.
Accueil, visiteurs, livraison. Oh oui, il y a des fils barbelés à l'entrée, des caméras. Et là, on vient de voir passer deux camions transportant des personnes de la DGSI, des renseignements. On rentre chercher les badges. Bonjour.
Bonjour. Merci.
On rentre dans un sas. Bon. L'ascenseur. Donc là, on descend très rapidement, on descend de 2 mètres par seconde et jusqu'à 490 mètres de profondeur. Alors voilà le chien robot de Boston Dynamics. Je me rapproche, donc c'est un chien jaune, quand même assez haut, j'imaginais plus petit. Il est jaune, il a des petites taches noires sur les pattes. Hop là, il se met en mouvement. Et là, il avance assez vite. C'est comme un grand chien mécanique. Et moi, il me fait vraiment penser à... Je sais pas si vous avez vu cette série dans Black Mirror. Cette série dans laquelle il y a un robot chien, comme ça, qui cherche à tuer une femme. Il a un couteau. Et avec ce couteau, et ben, tout du long, il cherche à tuer cette femme. Et ben, ce robot-là, il ressemble vraiment à ce chien robot.
Ah ah, dégage de là, espèce de saloperie de merde.
C'est vous qui dirigez le robot avec votre tablette là.
Oui, c'est ça, oui. C'est un peu comme une manette de console finalement. Au milieu, on a l'interface graphique qui est en fait tout simplement une tablette. En fait, on voit les caméras du robot et on peut le diriger donc comme une manette avec des joysticks.
Donc en fait, sur votre tablette, on voit ce que voit le robot, c'est
voilà,
ça?
Exactement. Et on peut aller faire des observations très très précises.
Là, par exemple, vous voyez les fissures, il y a une façade devant nous avec des éboulements.
Exactement.
Et en quoi ça vous intéresse, du coup, de savoir précisément ce qui est à tout près? Vous ne pouvez pas y aller vous-même à la place du robot?
Justement, c'est vraiment la contrainte, c'est qu'on a une zone où c'est dangereux d'y aller. Il peut y avoir des risques d'éboulement. Donc c'est vraiment très très intéressant d'utiliser une machine comme ça pour sécuriser en fait le travail des personnes qui travaillent près du front de taille.
D'accord, donc c'est le chien qui va y aller à la place d'un humain en fait.
Exactement, ouais, c'est ça.
On a vu aussi que l'armée française avait fait des tests avec ce chien robot. C'est un des usages également pour l'armée.
Alors ce qu'on peut dire, c'est que ce type de robot, il a des utilités en général dans tout ce qui vont être les milieux complexes, les milieux où il y a des risques. Donc évidemment, ensuite... Est-ce que l'armée française voudra s'équiper avec un robot américain? Ça, je ne me prononcerai pas à leur place.
Est-ce que je peux aller en faire des sites, mais il y a un truc pour aller trouver? Ouais, je peux y aller.
Je ne sais pas si on peut le toucher, ce robot. Il fait des tours sur lui-même. Il a sa caméra devant, à la place de la tête. Là, il me regarde. Il s'assoit, il se tourne. Il a sa caméra également derrière. Un petit coup d'accélération. C'est un peu flippant quand même. Hein.
Je suis Guillaume Hermand et je suis ingénieur à l'ANDRA.
Alors Laurent Serletta, je suis enseignant-chercheur à l'école des mines de Nancy.
Je m'intéresse à la 5G, au rapport entre le robot et la 5G. Je voulais savoir s'il fonctionnait déjà grâce à la 5G ou s'il allait fonctionner avec la 5G.
C'est étonnant que vous soyez déjà au courant de ça, mais effectivement, en fait, on a fait des petits essais, alors non pas en 5G, mais en 4G, en fait, donc en LTE classique. Hein, ça a fonctionné avec des latences qui ne sont pas acceptables en termes de contrôle fin. C'est-à-dire qu'il y a une demi-seconde, une seconde, donc on ne peut pas y donner une commande et être sûr que ce qu'on voit, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est un peu comme quand on envoie une sonde sur Mars, c'est qu'en fait, il y a 15 minutes d'écart entre quand j'envoie une commande et l'action, quand je vois une image et en fait ce qui s'est passé. Donc là l'idée de la 5G, c'est de permettre ça en fait, de résoudre ce problème de latence et de débit.
Mais la 5G dans les souterrains, là dans le sous-sol, vous n'allez jamais la capter, la recevoir?
Alors dans tout ce qui est déploiement en fait comme ça de téléphonie, enfin système de téléphonie mobile, les gens ils pensent 5G ou 4G, ils pensent opérateur. Mais en fait on peut faire du déploiement privatif.
Vous auriez votre propre petite antenne relais?
Tout à fait.
Petite ou grande, enfin.
Après, voilà, ça dépendra de l'ambition de la personne qui va déployer ça. C'est, si elle a besoin de couvrir une usine, par exemple, ça va être des grandes, plusieurs antennes, en fait, ou des petites, hein, qui fonctionnent en réseau. Vous pouvez déjà le faire, en fait.
Un réseau réactif qui place l'humain au centre pour retrouver tous nos sens, mais en plus grand, en plus fort. En augmenter.
Michael Trabia, vous êtes le directeur de la technologie et de l'innovation d'Orange. Aujourd'hui, à quoi sert la 5G telle qu'elle existe aujourd'hui, hein, avec la fréquence 3,5 GHz? À quoi ça sert aujourd'hui la 5G?
D'abord, c'est une fluidité d'usage, d'expérience qui est plus importante, des débits 3 à 4 fois supérieurs par rapport à la 4G. Et puis surtout, la 5G, ça va permettre de faire face à la croissance des usages. On utilise tous notre téléphone, toujours plus, tous les ans. On a une croissance de 30 à 50% tous les ans du trafic data. Et pour pouvoir faire face à cette croissance, on a besoin de plus de capacités, on a besoin de technologies plus efficaces. Et c'est ça que la 5G va amener. Et puis la 5G, ce sera une rupture, pour le coup, pour le monde de l'entreprise, pour l'industrie 4.0, pour les transports intelligents, pour la ville intelligente, pour la télémédecine.
Alors quand vous dites intelligent, ça veut dire connecté, quoi. L'enjeu, il est économique.
Là où on a une vraie rupture, c'est effectivement pour l'économie. Et aujourd'hui, on a des industriels qui nous disent, nous, on a besoin de la 5G pour être compétitif, et pour lesquels c'est un critère de choix. On a des ports, par exemple, qui sont en compétition internationale. Les ports français, comme le port du Havre, est en compétition avec d'autres ports, le port d'Anvers, Rotterdam ou Marseille, bien entendu. On a besoin d'avoir la 5G pour être compétitif.
Alors, les ONG, Prix Artem et Agir pour l'environnement ont relevé que la 5G va faire grimper le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques de 30%. Un rapport de l'ANSES est paru le 20 avril dernier, un rapport qui était très attendu, qui nous dit que la 5G ne présenterait pas de risque nouveau pour la santé au vu des données disponibles. Est-ce que ce rapport, vous l'avez consulté ?
Oui, bien entendu, et c'est un rapport qui était très attendu et qui est rassurant, effectivement, qui confirme qu'il n'y a pas de risque particulier avec la 5G et qui se base sur les plus de 20 000 études scientifiques qui existent sur les ondes, Et donc, il y a quand même un niveau de confiance qui est assez élevé sur ce sujet.
Alors, il y a d'autres études qui ont été menées et qui pointent les dangers des ondes électromagnétiques sur la santé. L'OMS a classé les ondes électromagnétiques comme étant possiblement cancérigènes pour l'homme. Il y a quand même des inquiétudes.
Il faut avoir en tête qu'on est aujourd'hui très inférieur aux valeurs limites. Et la réalité de l'exposition, aujourd'hui, on est plutôt à 1/100 de ces valeurs limites. Et la 5G, finalement, ne va changer que marginalement cette exposition, parce que même si on va transporter plus de trafic, la 5G, c'est une technologie plus efficace qui va envoyer les données uniquement là où on en a besoin.
J'ai eu envie de comprendre comment sont mesurés les champs électromagnétiques. Est-ce que les 6 antennes relais que je vois de ma fenêtre émettent beaucoup d'ondes? Et ma borne Wi-Fi? Mes 2 téléphones portables, mon compteur Linky, mes lumières connectées, mon babyphone, mes enceintes Bluetooth et la ligne de chemin de fer qui passe à 10 mètres.
L'ANFR, bonjour.
J'ai donc appelé l'agence qui gère l'ensemble des fréquences radioélectriques en France, l'ANFR, pour lui demander si elle pouvait venir prendre des mesures d'ondes chez moi.
Voilà le salon.
C'est un beau site radioélectrique parce qu'on voit bien les antennes.
Ah bah là on les voit. Elles sont juste en face. Et avant, on habitait dans l'immeuble sur lequel il y a les antennes.
Ah, d'accord.
Moi, je suis Jean-Benoît Gnani. Je travaille à l'Agence nationale des fréquences et je suis le directeur adjoint de la stratégie et le responsable du département des études sur l'exposition du public.
Là, vous diriez qu'elles sont à peu près à 100 mètres, ouais, les antennes en face.
150.
150 ?
J'ai regardé avant.
Ah, vous avez regardé. En face sur l'immeuble, il y en a 6. 6 antennes, en fait.
Là-bas, il y en a 2.
Alors, je suis allée sur le site de la NFR pour regarder la cartographie que vous avez mise en ligne. Et celle-ci, en fait, on peut voir sur la carte, si vous agrandissez, j'ai vu qu'on pouvait voir le faisceau.
Oui, il y en a un qui vient vers vous.
Vous vous appelez comment ?
Johan. Je travaille pour la société XM. Du coup, c'est un laboratoire d'analyse privé qui est mandaté par la NFR pour venir réaliser la mesure.
Donc là, vous mettez l'antenne dans ma cuisine.
Le but, c'est de faire toutes les pièces à vivre de la maison et des points dans le jardin. Ouais, donc du coup, il faut éteindre les téléphones portables.
Parce que d'habitude, il y a mon conjoint qui est à la maison et généralement qui a son téléphone allumé. Donc je me dis que si on veut prendre des vraies mesures, peut-être qu'il faudrait laisser juste le mien, plus celui de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est pas le protocole.
Non.
Donc là, je vais pas tout avoir en fait. Le chat vous dérange pas ?
Non.
Pour prendre les mesures, le technicien se déplace d'une pièce à l'autre avec une antenne d'1,50 m de hauteur.
Donc le point chaud, comme on l'appelle, donc le point le plus haut de la cartographie que j'ai réalisée chez vous, il se situe au niveau de la véranda. J'étais à 1,25 vol par mètre.
1,25.
Un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. La moyenne nationale est à 0,85 volts par mètre.
Ah oui, là on est au-dessus nous.
Vous êtes un peu au-dessus, par contre vous êtes bien en dessous de la valeur d'attention qui est aujourd'hui fixée par la NFR à 6 volts par mètre, qui fait partie de la définition du point atypique. Point typique, c'est une exposition supérieure à 6 volts par mètre dans les locaux d'habitation, dans les espaces accessibles au public. Et si vous dépassez cette valeur-là, on demande à l'opérateur de diminuer l'exposition, si techniquement évidemment c'est possible, pour passer en dessous de ce chiffre-là. Et vous avez à peu près 1% des gens qui sont au-dessus de 6 volts par mètre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne va rien déclencher chez vous.
Jean-Benoît Agnani. Il y a 30 cas atypiques.
En 2019, ouais. 29, je crois, précisément. Mais
en France.
En France, oui.
Cas atypiques détectés. Donc, il y en a qui ne sont pas détectés, sans doute.
Il y en a qui ne sont pas détectés, bien sûr. Ouais. On a vu un cas cette année, là. Une personne avait construit une extension à peu près une dizaine de mètres d'une antenne relais. Donc, l'antenne relais passait au-dessus de la maison. Et lui a construit le propriétaire a construit une extension. Et il s'est retrouvé à la même hauteur que les antennes, à quelques mètres, évidemment, dans le faisceau. Et donc là, on a eu des valeurs qui dépassaient les valeurs limites.
C'est-à-dire, il était à combien ?
Entre 20 et 30 volts par mètre. Donc, vous voyez, il était quand même bien significatif. Et quand on simulait les émetteurs à puissance maximale, on voyait ce qu'on appelle une non-conformité. Donc là, l'opérateur en question a immédiatement arrêté sa station. Et là, vous les voyez bien aussi, hein, c'est parce que vous ne faites pas attention. Mais...
Non, bah vous allez montrer du coup. Ouais, là, on se dirige vers les antennes qui sont en bas, en fait.
Regardez un petit peu de vos propres yeux, vous allez les voir toutes seules. Hein.
Juste derrière.
Vous ne voyez pas de monticules ?
Non,
je les vois pas. Non. Oh.
Vous les voyez, vous ? Ben non.
Vous voyez, c'est un peu vert.
C'est
les monticules là, bah c'est des antennes ça.
Elles sont camouflées un petit
on
peu.
On dirait des cheminées noires.
C'est l'intégration paysagère pour que ça passe mieux.
Oui, l'intégration paysagère, ouais. Ouais, c'est spécial. Ouais. On dirait des espèces de sculptures contemporaines mal. Bref, alors, pas très jolies.
Je sais pas ce que c'est une espèce de buis ou je sais pas quoi. Ouais, je sais pas.
Il y a même des faux arbres, hein, des faux buissons.
C'est vrai, cheminées aussi, vous voyez, ça pourrait être une cheminée là-haut, vous avez plein de cheminées, il pourrait y avoir une antenne. Quoi. Mais sur carte radio, vous savez s'il y a une fausse antenne. Ou... Ouais.
Mais c'est comme ça que j'ai vu qu'il y en avait une dans le clocher de l'église qui est à côté de chez ma mère.
Ouais. Parfois, c'est pas facile à voir.
La 5G ne va pas tarder à émettre par ses antennes relais. C'est une question de jours ou de semaines. J'ai donc demandé à Jean-Benoît Agnani, de l'ANFR, ce que donneront ces mesures quand la 5G émettra. Voici sa réponse.
L'exposition globale dans votre domicile augmentera d'environ 0,33 volts par mètre. Vous passerez donc de 1,18 à 1,51 volts par mètre. Cette augmentation serait bien plus faible si le faisceau d'antenne 5G ne pointait pas dans la direction de votre domicile.
Interception sur France Inter.
La question de l'effet des ondes sur notre santé remonte bien avant le débat sur la 5G. Il est tout simplement amplifié à mesure que les opérateurs utilisent des fréquences toujours plus grandes et donc toujours plus gourmandes en ondes. Nous allons désormais dans le Grand Ouest, où des éleveurs ont déjà constaté des problèmes parfois graves sur leurs exploitations. Anaëlle Verzeau est allée s'en rendre compte, tout d'abord en Bretagne.
Voilà, j'arrive à la ferme des Quatre Vents, chez Jean-Claude et Marie-Christine Juel et leurs enfants. La ferme, elle se trouve à Saint-Broladre. C'est en Ille-et-Vilaine, entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Et on est là parce que Jean-Claude et Marie-Christine ont constaté des liens entre des maladies que développaient leurs brebis et les ondes électromagnétiques et les antennes relais qui ont été installées à proximité de chez eux.
Donc ça, c'est des mâles.
Là, c'est les mâles à gauche.
C'est les béliers, voilà. Ouais. À gauche, les béliers et à droite, les brebis. On peut aller les voir de l'autre côté parce que si on se met là, on peut les voir de l'autre côté.
Et alors, Jean-Claude, est-ce que vous pourriez nous parler ? On s'est eu par téléphone il y a quelques jours, et vous me disiez, il y a eu des effets, des ondes électromagnétiques sur mes animaux.
Ce qui s'est passé, c'est que dans l'été 2011, j'ai eu trois mammites. Une mammite, c'est un état inflammatoire du pis. Les brebis deviennent improductives. Donc là, le lait n'est plus consommable, donc la brebis est foutue, quoi. Donc j'ai eu trois mammites en été, et en 17 ans, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est la seule fois où j'ai eu des mammites en été. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est à la mise en route de cette antenne qui est à 1 km, on a des mammites ici en plein été. Et en 2012, j'ai 30 jeunes de renouvellement, et sur les 30 jeunes, apparaît des goîtres, problème de thyroïde, j'en perds 10. C'est-à-dire un tiers de mes jeunes de renouvellement meurent. C'était un gros coup déjà. Et 2013, j'ai perdu 28 brebis. Et les agneaux ne passait pas 6 kg de poids de carcasse en croissance.
Alors que normalement, c'est combien de kilos ?
8, 12 kg de carcasse. Donc là, il se passait quelque chose. Donc c'était progressif. Mais nous, on a fait le lien qu'à la venue de Luc Leroy, le géobiologue, il cherchait. Il a mis une demi-journée sur la ferme. Il dit non, ça ne vient pas de la ferme. Et il a été à l'antenne. Il a dit ça y est, j'ai trouvé, c'est l'antenne. Non seulement elle était puissante, et en plus, elle était mal placée. Ce qui s'est passé, c'est que l'antenne de Saint-Brolade a été placée sur des failles géologiques.
L'antenne relais.
J'ai fait venir 4 experts, ils m'ont dit, c'est incroyable, ils l'auraient mis à 50 mètres plus loin, il n'y aurait pas eu ces problèmes souterrains. Parce qu'il faut savoir que si l'antenne est placée sur faille, il y a réfraction dans la roche, et ça monte sur tout le plateau.
Et ça fait un effet démultiplié, du coup ?
C'est ça. En plus, si vous prenez un GPS, le transfo et l'antenne, eh ben, le bâtiment est sur la ligne. Et c'est ça qui fait mal, ce courant vagabond passe dans le bâtiment.
Et donc passe dans vos brebis, quoi.
C'est ça. Et en fait, regardez les brebis, elles n'ont pas de bottes comme nous, elles n'ont pas de chaussures. Donc c'est eux qui faisaient les fusibles, qui prenaient. On sait bien que des arbres peuvent remettre de l'électricité vagabond à la terre, ils font prise de terre. Ben là, c'était les brebis. Et Luc, alors Luc Leroy...
Alors oui, le géobiologue...
Ce qui est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que Luc m'a dit, ça y est, j'ai trouvé. Donc il me dit, je vais casser le champ de torsion. C'est-à-dire qu'il a empêché l'électricité de traverser le bâtiment. Et donc il m'a dit, si c'est ça, il va y avoir une réaction rapide et violente. En effet, le lendemain, j'avais 14 litres de lait en plus. Je vous ai dit qu'une brebis faisait qu'un litre. Donc c'est comme si j'avais 14 brebis le lendemain en plus, quoi. Donc tout de suite, les animaux ont réagi positivement.
Nous allons maintenant dans la Sarthe, à Saint-Longy, chez Patrick Pilon.
Le collège est là. Là, c'est une voie verte qui longe tout mon élevage.
Il était, pendant 30 ans, l'un des plus gros éleveurs de lapins de France. Mais à partir de 2014, ses bêtes tombent malades et meurent les unes après les autres d'une mort violente. Au total, en 4 ans, il a perdu 200 000 lapins. En moyenne, ça fait donc 137 lapins morts chaque jour pendant 4 ans.
Donc tout a abandonné, c'est plus entretenu depuis un an et demi. Hein. Mais je suis encore chez moi. Je ne dispose plus de mon matériel, je ne dispose plus du bâtiment, mais je suis encore propriétaire.
Parce que vous avez été liquidé judiciairement,
oui.
C'est ça, en Patrick ?
Oui. J'ai été mis en liquidation le 13 septembre 2019. C'est compliqué moralement, parce que vous voyez le mur qui s'approche, les difficultés financières qui s'accentuent, une impuissance de redresser la barre, et vous savez, de toute façon, vous avez droit au mur et que ce sera fini très prochainement. Donc ça, c'est une torture morale.
Voilà, on passe juste devant l'antenne.
Là, vous êtes chez moi.
Ah oui, l'antenne, elle est à 1 mètre de votre champ.
Oui.
Donc là, on est en train de longer tout votre élevage. Ancien élevage. Vous en aviez combien, des lapins ?
J'avais 4300 mères et puis donc 30 000 petits sous les mères, plus un peu plus de 30 000 lapins dans l'enracinement sur les sites qu'on voit là.
Donc ça fait un total de...
Bon, 60 000, quoi, 60 000 animaux présents sur le site.
Patrick Pilon mène un combat acharné pour comprendre la cause de ces morts fulgurantes.
Mon travail était réduit à enlever des morts toute la journée, quoi. Toute la journée, toute la journée. Donc enlever les morts, c'est une chose, mais pas savoir pourquoi, c'est...
Pardon, donc, Patrick, ça faisait combien de temps que vous éleviez vos lapins ?
Ça fait 30 ans que je suis installé. Donc des problèmes sanitaires, j'en ai connu, comme on connaît tous dans les élevages, toujours maîtrisés, sans plus ou moins de problèmes, mais maîtrisés. Et là, c'était vraiment quelque chose non maîtrisable et puis non identifiable. Donc là, il a fallu vraiment que je fasse appel à plusieurs techniciens, plusieurs vétérinaires, qu'on analyse tout, l'aliment, l'environnement, savoir si je faisais pas des bêtises... Après deux ans d'investigation avec vétérinaire, technicien, toutes les semaines, de façon hebdomadaire. C'est un échec total. Autopsie, rien donné. Bactériologie, rien donné non plus. Donc, c'était pas ni bactérien, ni viral. Donc, il a fallu trouver d'autres pistes. J'ai contacté la Chambre d'agriculture des Pays de Loire, qui ont un géobiologue qui est salarié. Donc, terme de géobiologue que je ne connaissais pas du tout. Qui m'a dit dans son rapport que ça venait de l'antenne relais.
Donc c'est le géobiologue de la Chambre d'agriculture qui vous dit que ça vient de l'antenne relais.
Oui, bingo, il y a une concomitance entre les montées en puissance de l'antenne et les problèmes sanitaires. Ce ne sont que des concomitances, aucune preuve.
Concomitance de date,
c'était concomitance de date.
C'était quelle date ?
Donc en 2014, quand il y a eu ce gros dérapage-là, il y a Free qui a actionné son faisceau en direction de mon élevage, juste à cette période-là. C'était la 4G. Et en épluchant tout, je me suis aperçu que j'avais déjà eu une baisse technique de l'ensemble de mon élevage en 2011. Et bingo, ça tombait en même temps que le passage en 3G de SFR.
La concomitance, c'est au niveau de l'année ou ça se joue au jour près, au mois près ? C'est combien de temps après la
ça
mise en
route ? Ça se joue au jour près, non, puisque je ne peux pas revenir en arrière, je n'ai pas de données exactes. Au mois près, oui. Et en 2014, à la semaine près, oui.
Là, c'est une des deux antennes. L'autre, elle est de quel côté ?
Vous la voyez à travers.
Ah, ça y est, je la vois. Ah oui, elle est pas loin.
C'est juste à côté du transfo DF. Et puis, il y a une autre tension, là.
Il y a la 5G déjà, là, ou pas ?
Je pense pas. Je ne suis pas sûr, mais je pense pas.
Pas
vous
encore.
Vous avez trois opérateurs dessus. Vous avez SFR, Bouygues et Free.
Et Patrick, là, vous avez branché un...
Donc là,
c'est quoi ?
C'est en discutant avec beaucoup d'éleveurs... Ils m'ont dit qu'il y avait une présence de courant dans l'eau d'alimentation, dans le matériel. Donc, à force d'écouter, j'ai vérifié chez moi. Et effectivement, il y a une présence de courant. Dès qu'il pleut, je mesure une tension entre le fond de grillage de mes lapins et la pipette d'abreuvement. Dès qu'il pleut, ça peut monter à 500-600 millivolts.
500-600 millivolts, c'est beaucoup.
Les animaux le sentent. Les spécialistes disent à 300 millivolts, il y a un senti de l'animal. L'animal, ça fait comme nous quand on met la langue sur une petite pile. C'est désagréable, mais bon, on ne meurt pas. Et les animaux, ça fait pareil. Donc, ils sont obligés de ressentir un courant électrique pour boire. Donc, forcément, ça perturbe, ça crée un stress. Et qui dit stress dit beaucoup de pathologies qui s'en suivent, quoi. Ces animaux-là, de toute façon, à chaque fois qu'ils vont boire, se prennent une châtaigne. Systématiquement. Donc ça, ce que je regrette fortement, c'est que cette présence de courant, je l'ai signalé à des spécialistes. Et pour l'instant, personne n'est venu ni mesurer. Personne ne conteste mes propos. Mais il ne se passe rien.
Est-ce que vous avez essayé de mettre certains lapins en dehors des cages ou un peu plus loin, ou d'en prêter à quelqu'un qui ne se situe pas au même endroit pour voir
J'ai essayé de mettre des animaux chez moi, à mon domicile qui est à 2 km, dans des cages que j'ai créées moi-même, dans des cages en bois, que j'ai mis chez moi et que j'ai mis là à côté de mon atelier. Et dans les deux cas, il n'y a aucun problème. Donc la seule explication que je peux trouver, c'est cette masse métallique mouillée qui attire le courant et qui crée tout ce dysfonctionnement.
Masse métallique autour des cages, enfin de la cage.
Autour des cages, oui.
Oui, parce que vous avez fait tout un tour après de la Bretagne pour rencontrer d'autres éleveurs, pour voir si d'autres avaient constaté la même chose que vous.
Donc en élevage de lapin, il y en a très peu, donc je n'ai pas trouvé d'élevage de lapin. En vache laitière, il y a énormément de problèmes. Sous-alimentation en eau, infection bactérienne dans le lait, voire pour certains élevages, arrêt de la collecte de lait, puisque du lait non conforme. Donc ça, c'est un problème récurrent, j'en rencontrais plusieurs fois. Ça me met dans un état de colère où il n'y a pas eu d'investigation de menée. Et je trouve que tous ces organismes, particulièrement les deux ministères concernés, Transition écologique et puis ministère de l'Agriculture, je trouve qu'ils jouent aux apprentis sorciers et qu'ils laissent faire des choses qui sont particulièrement inquiétantes. On doit trouver des solutions, encore faut-il les chercher.
Patrick Pilon mène une investigation incroyable.
Dans
son bureau, il a plusieurs dossiers classés avec tous les courriers envoyés au ministère, à des députés et même au directeur de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, qui lui a répondu. Dans ses dossiers, il a aussi gardé tous ses relevés de production et constate la concomitance systématique entre les décès de ses lapins et l'activation ou la montée en puissance des antennes relais autour de son exploitation.
Les antennes relais, il n'y a aucun organisme en France qui s'occupe des soucis sanitaires des élevages sur les antennes, il n'y a rien du tout. Donc c'est ce que je demande aussi, il y a des investigations soient faites aussi pour les élevages comme le mien, quoi. Dernièrement, un député a posé la question au gouvernement, quel est le rôle du GPSE sur notre territoire.
Alors, question soumise le 12 janvier 2021, réponse émise le 23 mars 2021. Le groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole, c'est-à-dire GPSE, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Ses ressources seront constituées, entre autres, par le versement d'une cotisation annuelle de ses membres fondateurs et adhérents. Il est donc prévu que les opérateurs, membres du GPSE, puissent financer les expertises. Toutefois, des réflexions sont en cours au sein du ministère chargé de l'Agriculture et du ministère chargé de l'Écologie sur une évolution à terme des statuts et du fonctionnement du GPSE, y compris pour le financement des expertises. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que l'organisme GPSE, qui est chargé en principe des contrôles, d'abord n'effectuait jusqu'à présent pas tous les contrôles, enfin pas sur les antennes relais, et ensuite qu'ils sont financés par les opérateurs eux-mêmes.
Totalement.
Donc en fait, les opérateurs sont jugés partis dans l'histoire.
Oui, non seulement ils sont jugés partis, après, ils prennent en charge évidemment certains éleveurs qu'ils financent, moi ce que j'appelle qu'ils perfusent, c'est-à-dire qu'ils leur apportent un apport financier en attendant de trouver la solution, qu'ils font des travaux, ils payent les interventions vétérinaires pour caler l'élevage, donc en fait, ils maîtrisent tout l'ensemble. L'éleveur ne peut plus contacter la presse, parce que s'il commence à contacter la presse par les financeurs de sa problématique, forcément il va être rejeté. Ça bloque toute investigation, ça empêche l'ANSES et les ministères de faire des investigations, puisqu'on leur a fait confiance jusqu'ici. On a de plus en plus de câbles enterrés, on a des antennes relais qui se sont montées, de plus en plus d'éoliennes, donc les phénomènes s'accentuent et je pense qu'ils n'ont plus la maîtrise de rien du tout.
Trois semaines après notre entretien, Patrick Pilon nous appelle paniqué. Des bulldozers sont en train de détruire son exploitation et les preuves avec.
C'est vraiment un champ de ruines, mais tout est cassé. La seule explication que j'ai eue, il fallait dépolluer le site rapidement. Ça fait quand même un an et demi que c'est abandonné, hein, donc il n'y a plus de pollution. Enfin, donc ça ne tient pas, quoi, je ne sais pas.
Sans aller dans le complot, est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de détruire des preuves possibles ?
Non, je n'irai pas jusque-là. Faire taire les éleveurs, c'est sûr. Complot, j'en suis pas là. Bon, certains se posent la question, monsieur le maire se pose la question quand même. C'est trop violent comme intervention, c'est pas justifié, ça tient pas debout, il n'y a pas d'argument derrière. En tout cas, laxisme ou volonté de pas trouver, ça c'est clair, puisque les victimes des lignes de tension, on en a en plein dedans.
Gérard Ledoit est professeur de biologie à l'université de Clermont-Ferrand. Il participe aux travaux de recherche de l'ANSES sur la 5G.
Il y a un effet thermique, hein, des fréquences élevées. Hein. On sait très bien que le four à micro-ondes, il fonctionne en 2,4 ou 2,5 gigahertz. Donc il y a un effet thermique si très rapidement dû à la, si on augmente la puissance,
voilà, ça chauffe.
De l'émission, ça chauffe. Donc la 5G, il peut y avoir un effet thermique. Mais il a été montré que en dessous de cet effet thermique, si on met une puissance assez basse ou des temps plus courts, avant que l'effet thermique n'apparaisse, les cellules répondent notamment avec des modifications du transport membranaire d'ion, comme le calcium. Ça a été établi. Le deuxième point, c'est que pour des fréquences de 60 GHz beaucoup plus élevées, des chercheurs français ont mis en évidence l'expression différentielle de plusieurs centaines de gènes, 660 gènes, je crois qu'ils ont mis en évidence, qui sont exprimés différemment. Donc, en fait, et pour des puissances qui sont inférieures à celles autorisées. Donc, ils demandent à ce qu'on descende ces puissances et ces amplitudes de manière à ne pas entraîner des effets, des désordres au niveau cellulaire. Il peut y avoir, à certains moments, la cellule peut se mettre en système de sauvetage, ou en système il y a un problème, faut gérer ça, et elle peut, complètement sortir de la voie normale d'évolution des cellules, soit en s'autodétruisant, soit au contraire en se libérant du tissu, et c'est la tumorisation et la cancérisation. Il n'y a eu aucune volonté de développer des laboratoires indépendants, publics, pour travailler sur ces problèmes, sur cette technologie, mais les quelques laboratoires, les quelques projets qui ont abouti montrent qu'il y a un effet de cette 5G, je vous dis, à 60 GHz, à 35 GHz, à 30 GHz, j'en ai plusieurs publications de ce type-là, et qu'ils ne peuvent pas être mis en doute. Qualitativement, le fait existe. Il se passe quelque chose, on n'a pas le droit de dire qu'il ne se passe rien. On n'a pas le droit.
Donc pour vous, ce qu'il faudrait faire, c'est de continuer les recherches et trouver des fréquences qui n'aient pas d'impact sur la santé.
Voilà. Ou bien changer complètement de technologie. Il faudrait commencer par penser à l'homme et à la santé humaine, et même à l'environnement, et à la santé des autres êtres vivants, avant de développer cette technologie.
Sauf que les opérateurs télécoms, de télécommunications, n'ont pas attendu les résultats des enquêtes, même pas le résultat du rapport de l'ANSES, hein, avant de démarrer la 5G.
Les conclusions étaient données avant que le rapport sorte.
Et comment ça s'explique, ça, selon vous ?
C'est une volonté politique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est qu'ils ont décidé de créer ça pour gagner de l'argent. Et puis c'est tout. Hein. Au détriment de la santé humaine. Mais ça existe pour les pesticides, ça continue d'exister. Ça existe pour d'autres technologies. On ne prend pas conscience que c'est des êtres vivants qui sont autour. On développe la technologie parce que ça fait plaisir à quelques-uns. Et ça leur permet de gagner beaucoup d'argent.
France Inter, Interception.
Chez Atos, nous pensons qu'en tant que leader mondial de la transformation numérique, nous avons la responsabilité de façonner l'avenir de l'espace numérique pour le rendre sûr.
Atos est un géant des services informatiques. L'entreprise est cotée au CAC 40, elle compte 120 000 salariés dans le monde et c'est même le partenaire informatique des Jeux Olympiques. C'est aussi l'entreprise stratégique. Son ancien PDG n'est autre que l'actuel commissaire européen, Thierry Breton.
Vous avez aimé la révolution numérique. Vous allez adorer la révolution quantique.
Et l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, vient d'être nommé administrateur d'Atos. Sur l'un de ces sites, celui des Clés-sous-Bois, dans les Yvelines, la médecine du travail s'est alarmée devant le nombre important de cancers du cerveau développés par d'actuels ou d'anciens salariés. Un site avec de multiples serveurs, un usage intensif du téléphone portable et des antennes relais juste en face de certains bureaux. Un effet cumulatif dénoncé par les salariés et par les proches des malades rencontrés par Anaël Verzo.
Pauline Duchastenier, oui. On est chez vous là, à Louveciennes, en région parisienne. Comment je peux vous présenter ?
Je suis la femme de Gérard Duchastenier, un salarié, un ex-salarié de Bulle. Mon mari était à la retraite depuis 4 ans. Il a travaillé pendant 30 ans chez Bulle Atos. Il a été atteint d'un glioblastome, c'est un cancer du cerveau. Il est décédé en juillet 2020, après un coma qui a duré un mois. Et j'aime bien faire une pause, oui, pour boire un verre d'eau.
Vous en voulez un ? Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.
Pendant sa maladie, il s'est rendu compte, c'est lui qui s'est rendu compte que son collègue, parti au même moment que lui à la retraite, était atteint de la même tumeur. C'est une tumeur assez rare. Là, c'est assez troublant.
C'est son collègue proche, enfin, je veux dire,
oui,
il travaillait.
Ils travaillaient ensemble depuis une petite dizaine d'années.
Dans quel service ils étaient ?
Alors, c'est un service de support aux clients qui les amenait à être au téléphone, beaucoup au téléphone sans fil, toute la journée et quelquefois. La tête dans des gros serveurs, dans des serveurs très puissants.
Informatiques.
Les serveurs informatiques, oui. Et pour mon mari, aussi dans l'axe d'une antenne relais. Voilà.
Pardon pour le détail, mais est-ce que vous savez si sa tumeur était du même côté que le côté du visage avec lequel il passait ses coups de téléphone?
Oui, oui, c'était du même côté. Et son collègue, qui est gaucher, a une tumeur de l'autre côté, parce que c'était le côté contre lequel il tenait son téléphone, oui.
Est-ce qu'il faisait le lien entre son activité professionnelle et sa maladie?
Oui. Peu à peu, il a découvert que d'autres cas de glioblastome avaient touché d'autres collègues. Il lui a semblé d'emblée que les chiffres étaient curieusement élevé, et il s'est rapproché du médecin du travail, des démarches qu'il pouvait faire pour essayer de faire reconnaître le caractère possiblement en lien avec son exposition durable, prolongée aux ondes magnétiques. Il semble que là, le principe de précaution ne soit pas pris en compte. Curieusement, qu'on se dirige vers la 5G au forcing, l'idée c'est de faire bouger un tout petit peu les choses, ou beaucoup idéalement, mais même peut-être qu'un tout petit peu, pour que la société soit mieux informée des dangers qu'elle encourt, parce que probablement il y a danger.
Vous avez sorti vos dossiers, le dossier Atos qui est posé sur la table. Ah voilà, docteur Christophe Chenet, c'était le médecin du travail. Alors, est-ce qu'on va réussir à lire ?
Écriture de médecin. Donc le 25 septembre 2019. Je sous-signais docteur Chanet Christophe, médecin du travail de Bulle Atos, aux Clés-sous-Bois, certifie avoir suivi monsieur Gérard Duchastenier de 2013 à 2014. Ce patient était ingénieur en informatique, en recherche et développement. Il utilisait de manière régulière le téléphone portable dans le cadre du support client et était dans un bureau en face des antennes relais. La relation entre champ électromagnétique et gliome est suspectée, d'où cette déclaration de maladie professionnelle hors tableau. Docteur Christophe Chanel, 25 septembre 2019. Nicole Coura, vous êtes l'ancienne secrétaire du CHSCT d'Atos Bulle sur le site des Clés-sous-Bois.
Exactement.
Et vous étiez CFDT ?
Oui, CFDT.
Comment est-ce que vous avez appris qu'un certain nombre de salariés de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, Atos Bulle,
était malade d'un cancer du cerveau, d'un gliome.
Donc c'est le médecin du travail qui a lancé une alerte, qui est venu voir le chef d'entreprise, enfin le chef d'établissement, pardon, et moi-même, pour nous dire il y a 4 cas de gliome, ce qui est pour un établissement qui est supérieur à la moyenne nationale, parce qu'il y a des statistiques dessus. Et donc il a dit, je lance une alerte là-dessus, donc il y a 4 cas, et surtout qu'il y a 3 cas qui étaient dans le même service. Donc il a dit, c'est étrange, c'est pas normal, c'est en dehors des statistiques. On a mené une enquête avec le chef d'établissement.
Quels ont été les résultats du cabinet d'expertise que vous avez mandaté? Je crois que c'est le cabinet Axiom.
Exactement. Donc déjà, on est parti de 4. Petit à petit, le médecin du travail nous a avertis au fur et à mesure, donc on est passé à 7.
7 cas.
C'est le cas avéré, c'est-à-dire que lui, il a confirmé avec le dossier médical que c'était bien des glioblastomes, plus 3 en suspicion.
Donc ça fait 7 sur et possiblement 10.
Exactement.
En combien de temps?
Entre 2015 et 2019. Normalement, c'est un cas pour 100 000 personnes. Là, c'était nettement supérieur à la moyenne, à ces statistiques. La NFR dit qu'à partir d'un certain seuil, on doit faire une mesure à long terme. Dans certains bureaux, on dépassait la limite de 6 volts par mètre. On est même arrivé à certains à 10. Donc nous, en tant que CHSCT, on a demandé tout de suite c'est que les bureaux soient vidés. Ça, c'était une mesure d'urgence. Ça a été fait. Sauf que, c'est-à-dire, ce sont des ailes. Le site des clés, ce sont des ailes. Et donc, s'il y a un bureau, donc c'était tout à fait en face des antennes. Mais ça s'arrête pas au bureau juste en face. C'est-à-dire que les ondes quand même continuent à émettre. Et donc, à un moment donné, nous, on avait demandé que toute l'aile, avec tous les bureaux qui étaient à l'intérieur de l'aile, soit vidée, ce qui n'a pas été fait. Alors que, il y avait des mesures pour limiter les ondes, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des films qui permettent de limiter les ondes dans les bureaux. Et ça, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait.
Donc ça veut dire que toujours aujourd'hui, il y a des salariés qui travaillent dans ces bureaux.
Exactement. Oui, exactement.
La 5G est-elle dangereuse pour la santé? L'ANSES a répondu ce matin.
C'est non, au vu des connaissances actuelles. Un feu vert, mais avec cette nuance. L'Agence nationale de sécurité sanitaire souligne qu'elle manque de données pour évaluer le risque, en particulier pour les futures fréquences de la 5G, ce réseau surpuissant de téléphonie et d'internet mobile, pour les fréquences pas encore employées, dont on ne connaît pas encore les usages.
Donc, Olivier Merkel, je suis le responsable de l'unité d'évaluation des risques liés aux agents physiques à l'ANSES.
Olivier Merkel, on a le sentiment qu'il y a un décalage entre les avancées technologiques et leurs usages et les recherches scientifiques qui mettent plus de temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer le principe de précaution, attendre d'avoir plus de résultats avant de continuer à développer la 5G et je pense aussi aux constellations de satellites hein, dont on n'a pas parlé là, mais qui arrivent et qui vont émettre également des ondes électromagnétiques encore beaucoup plus importantes. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre un peu d'autres résultats, d'autres recherches?
Alors ça, c'est une vraie belle question, je dirais, de société, à savoir ce qu'on veut. Nous, nos recommandations, elles sont vraiment en direction d'une recherche accrue pour évaluer au mieux possible ces impacts éventuels. D'après les éléments que l'on a aujourd'hui en matière d'exposition aux radiofréquences, on a des recommandations de prudence, hein, encore une fois, vis-à-vis notamment des enfants. C'est aujourd'hui le téléphone qui présente finalement les niveaux d'exposition les plus élevés par rapport à beaucoup d'autres sources, même si, effectivement, on peut parler de toutes ces sources qui nous environnent, mais qui sont à des niveaux faibles en comparaison. En tout cas, c'est avec ou c'est par le téléphone que finalement on peut aujourd'hui agir le plus efficacement sur son niveau d'exposition. Donc choisir d'utiliser un kit main libre, d'éloigner son téléphone quand on appelle, etc., de réduire la durée, la quantité des appels, ça, c'est des vraies actions possibles aujourd'hui par tout un chacun en matière d'exposition aux radiofréquences.
Il y a quand même une question, c'est la question de l'accumulation de tout ça. C'est-à-dire que si j'habite entre 3 antennes relais qui ont leur faisceau dirigé vers moi, si je dors à côté de ma borne Wi-Fi et que je passe ma journée au téléphone avec le téléphone collé à l'oreille, est-ce que j'ai un risque, oui ou non, de développer un cancer du cerveau?
Ouais, ça c'est effectivement la question du cumul des expositions, elle est importante. On ne sait pas aujourd'hui la résoudre pour la simple et bonne raison que on ne sait pas quel effet ça pourrait produire. Est-ce que effectivement on pourrait imaginer des sortes d'effets qui soient synergiques entre telle et telle fréquence, par exemple. Est-ce qu'on a des effets à très long terme liés à des expositions faibles mais permanentes, comme par exemple pour celles qui émanent des antennes relais, auxquelles on est exposé finalement tout le temps. Pour l'instant, toutes les études que l'on a pu consulter ne mettent pas en avant ce type de risque. Mais il faut dire aussi que réaliser ce type d'études épidémiologiques en particulier est très compliqué puisque, par définition, on a de plus en plus de mal finalement à trouver des personnes qui ne sont pas exposées. Et on a toujours besoin, lorsqu'on fait ce type d'études, de comparer ce qui se passe pour une population qui est exposée par rapport à une population qui ne l'est pas. En Europe notamment, eh bien, on a du mal à trouver des personnes qui ne sont pas exposées.
La 6G est déjà en vue. L'Union européenne est en train de développer un programme de recherche. Les débits 5G seraient alors multipliés par 10, 100, voire 1000 selon certains cas. 5G, les ondes de la controverse, c'était un reportage d'Anna Elverzo, réalisé par Violaine Ballet, avec l'aide de Martine Messonnier, mixage Benjamin Vignal.